Sanat proposa à Kat l'immortalité en échange de son arc magique, potion magique. Celui-ci répond avec sagesse, ne m'abuse pas, ô vierge. Cesse d'abuser le héros en bavardant. Quelle fin dernière un homme peut-il obtenir? Quelle destinée future? On versera sur ma tête quelque chose de blanc, de la cendre sur mon crâne. Puisque tout le monde meurt, je mourrai. Mortel, moi aussi, je mourrai. Et de mort, tu mourras. Hein? Ça vient dans le texte. Et donc, il y a cela. Qu'est-ce que c'est que la mort? Pourquoi la mort? Face à cette résignation, largement attestée dans la littérature ancienne, le personnage de Gilgamesh représente le refus de la mort, la quête de l'immortalité. Les réactions du héros à la mort de son ami Enkidu expriment l'angoisse existentielle qui l'a envahi devant la disparition de son ami dans un ton très moderne. Effectivement, Gilgamesh et Enkidu qui avait été donné comme ennemi, comme adversaire, les dieux avaient envoyé à Gilgamesh, qui était un homme parmi les animaux et qui vivait en harmonie au milieu des animaux. C'est un roi légendaire du Golfe, Gilgamesh. Et donc, il vivait en harmonie avec les animaux et les dieux avaient un peu ombrage de cet homme qui vivait une telle harmonie sur Terre. Et il lui envoie un être qui est son ennemi, qui est Enkidu. Et ils luttent ensemble, et dans la lutte, dans ce corps à corps, ils découvrent qu'il y a une autre manière que la violence, et qu'on peut s'entendre, et on peut devenir amis. Et voilà donc la lutte, la division qui se transforme en amitié. Mais voilà que les dieux, toujours l'inimitié des dieux, vous voyez, ça apparaît aussi dans l'histoire du serpent, hein, l'inimitié des dieux, se venge de cet Enkidu qui était devenu l'ami de Gilgamesh et le tue. Et voilà, Gilgamesh, devant la mort de son ami, la mort de son ami lui dit sa propre mort, sa propre mentalité. Et il veut non pas quêter la vie pour lui-même, mais pour son ami. Et il va faire tout un chemin, un long trajet, pour aller chercher la plante de la vie. Un petit peu comme la quête du Graal, hein, c'est la quête de l'immortalité. Et il atteint dans un beau jardin, vous voyez, l'image du paradis, il atteint cette plante de la vie et il va la rapporter pour ressusciter son ami Enkidu. Il faut dire aussi qu'il avait appris l'amour d'une prostituée, d'une cabaretière, qui lui avait fait percevoir la beauté de l'homme qui dépasse les animaux. Et c'est par l'amour qu'il avait atteint la véritable connaissance. Et voici donc qu'il veut rapporter cette plante de vie. Mais voilà, au moment où il faisait très chaud, il se baigne, et puis il s'endort. Et voilà qu'un serpent vient voler la plante de vie. Et le voilà de nouveau face à la mort, inéluctablement. On voit bien que c'est l'homme qui réfléchit à la mortalité. Face à cette résignation, largement attestée dans la littérature, le personnage de Gilgamesh représente le refus de la mort. Les réactions du héros à la mort de son ami Enkidu exprime l'angoisse existentielle qui l'a envahi devant la disparition de son ami, et cela dans un ton très moderne. Mais il va plus loin que la souffrance, puisqu'il se révolte contre le destin des hommes en essayant d'échapper à la mort. Échapper à la mort est considéré, ou l'immortalité est considérée comme l'apanage des dieux. On sait ce qu'il advient de sa révolte, de sa quête prométhéenne de vie, est finalement brisé par un mystérieux serpent qui vient lui subtiliser la plante de la vie si péniblement conquise. Les hommes de la Bible n'ont pas échappé à la fascination exercée par l'aventure de Gilgamesh. Aujourd'hui, nous sommes loin des réactions passionnelles provoquées par les rapprochements jugés scandaleux à l'époque entre Gilgamesh et les premiers chapitres de la Genèse. La publication de la littérature sumérienne et akkadienne, déchiffrée depuis peu, faisait apparaître des contacts entre ces récits de la Bible, ces récits et la Bible. Et au début, quand on a trouvé ces textes, au début de ce siècle, hein, on disait « Non, il n'y a pas de mythe dans la Bible ». Mais si, il y a des mythes dans la Bible. Hein. La révélation n'est pas tombée du ciel comme cela, il y a des mythes. Mais ces mythes sont traités d'une façon particulière. Et ce qui est important, c'est de voir comment ils sont repris dans la Bible. Mais il y a une réflexion sur ces réalités-là. Ils ne partent pas de rien. Dans le climat de polémique des années 1900, certains proclamaient sans nuance la grande supercherie de la Bible, reconnue coupable de tricherie de des écrits sumériens plus anciens. C'est l'époque où on écrivait des livres qui s'appelaient Babel und Bibel, Babel et la Bible. Et donc, c'est toute une supercherie d'avoir monté la Bible en épingle, alors que ce sont des récits aussi légendaires que tous les récits que nous avons dans le Proche-Orient. Oui, on avait tout mis sur le même pied. Ah oui, ils partent de là. Et qu'en font-ils? Aujourd'hui, nous pouvons apprécier les relations entre les textes comme Gilgamesh et la Bible. Plus personne ne met en doute que les auteurs de la Genèse avaient sous les yeux l'épopée, ou dans la tête en tout cas, en mémoire, l'épopée de Gilgamesh. On en a la certitude quand on compare le déluge de la Genèse au déluge de Gilgamesh, car il y a aussi une histoire du déluge, dont nous parlerons plus tard. Il suffit de mettre en synopse les deux recensions. Points communs et différents apparaîtront immédiatement. Utanapishtim, le personnage qui va traverser le déluge, est sans conteste l'ancêtre de Noé. Sans aller jusqu'à produire la même structure narrative, d'autres points de contact se dessinent. Ainsi, le rapport de proximité et de distance entre l'homme et l'animal, très important, est présent dans les deux récits, le rapport, la relation de l'homme à l'animal. Et ce n'est pas pour rien que le tentateur est pris sous forme de serpent. Le plus nu ou le plus rusé des animaux que Yahvé Dieu avait créés. Enkidu, qui a le statut d'homme animal et ne se complaît que dans la compagnie des animaux, accède à l'humanité par l'amour d'une femme. Du coup, son intelligence s'éveille et qu'il était bon et désirable, convoitable pour obtenir l'intelligence, dit le texte. Et il déserte les animaux pour devenir l'ami inséparable de Gilgamesh. Important, cela. Donc, cela évoque le récit biblique d'Adam, ne trouvant pas de compagnon parmi les animaux vers lesquels Dieu l'a conduit, et laissant éclater sa joie sauvage, dit-il, lorsqu'il reconnaît en la femme son complément. Je ne dirais pas tout à fait ça, mais en fait, ça n'est rien. Alors que dans Gilgamesh, l'immortalité est accessible à travers une plante, dans la Bible, c'est un arbre de vie qui symbolise le triomphe de la mort. Et il y a ces belles images que vous avez dans les vitraux ou dans les reproductions anciennes, dans les enluminures aussi. Vous voyez, et même dans les icônes, cela a été repris, où vous voyez l'Annonciation. Gabriel et Marie, et entre les deux, ou sur le côté, ou derrière, souvent derrière Marie, il y avait un arbre. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Et vous le retrouvez, l'arbre de vie, dans l'Apocalypse, bien entendu. Avec la femme et le dragon. Donc oui, il y a quand même une cohérence dans tout ça. Entre l'arbre, ou la plante de vie, et l'homme, c'est le même animal qui s'interpose, un serpent. Dans le mythe de Gilgamesh, le serpent silencieusement dérobe la plante à Gilgamesh. Tandis que dans le texte biblique, c'est par sa parole intéressante, trompeuse, que le serpent coupe définitivement à l'homme l'accès à l'arbre de vie. La dépendance, pour une part, d'Israël par rapport à des littératures étrangères ne pose plus problème aujourd'hui. L'originalité d'Israël n'est pas le résultat d'un isolement culturel absolu, comme on a pu le croire que le Proche-Orient ancien était moins connu. Tout au long de son histoire, Israël a su se montrer hospitalier aux traditions de ses voisins. Mais c'est intéressant pour nous. Ça veut dire que nous aussi, nous avons à nous montrer hospitaliers de la culture ambiante et que nous n'avons pas hein, à tout dénigrer comme si tout était mauvais. Tout au long de son histoire, Israël a su se montrer hospitalier aux traditions de ses voisins, bien loin de rejeter systématiquement tout ce qui l'entourait. Israël a eu le génie de faire sienne les richesses culturelles ou religieuses de ses voisins. Sachant bien que l'Esprit Saint n'est pas absent du voisin. Il l'a fait avec originalité, en purifiant ce qui était polythéiste ou syncrétiste, et en reliant ces éléments empruntés à son expérience historique religieuse. Celui qui lira les poèmes de Gilgamesh aura conscience de rencontrer l'un des chefs-d'œuvre de la littérature. Gilgamesh a gagné une autre immortalité que celle qu'il cherchait au-delà des mers, au pays de Utnapishtim. Il a gagné l'immortalité dans l'histoire. En faisant entrer le poème de Gilgamesh dans nos suppléments, nous lui offrons un surcroît de vie grâce aux milliers de lecteurs qui vont arracher Gilgamesh à la mort par leur acte de lecture. Nous retrouvons l'acte de lecture comme l'acte qui fait que ce texte devient vie. L'appropriation du livre nous dit ce que nous vivons et nous fait vivre ce que le texte dit. Important, cela. Pour le croyant, Gilgamesh présente un attrait supplémentaire. Ce livre a inspiré ceux qui ont écrit Genèse 1-2. Dès lors, on comprend mieux que la révélation ne méconnaisse pas la sagesse humaine. Bien au contraire, une des forces d'Israël est d'avoir su capter le meilleur de ce qu'il a rencontré sur son chemin. Sa foi lui a permis d'assimiler les richesses humaines, religieuses, culturelles de ses voisins en les colorant de l'originalité mosaïque. Le croyant qui voudra en faire l'expérience textuelle n'aura qu'à comparer le déluge mésopotamien et celui de la Bible, nous y viendrons. Il verra à l'œuvre l'esprit d'ouverture et de discernement qui a fait la force des écrivains bibliques. Vous voyez donc que l'inspiration suit le chemin des hommes. Et la révélation, pareillement. Alors, nous revenons à notre paradis, notre jardin d'Éden. Vous avez un texte dans l'évangile de Saint-Luc. Au moment où Jésus meurt, le larron, qu'on appelle bon, à l'opposé de l'autre que l'on appelle mauvais, larron, et c'est l'un et l'autre, c'est nous, hein. Attention. Et c'est à savoir si nous allons prendre le bon côté ou le mauvais. C'est-à-dire le dénigrement de Dieu, de l'œuvre de Dieu en Jésus, de Nazareth. Ou bien si nous allons nous laisser, ou laisser Dieu en Jésus de Nazareth devenir espérance pour nous. Devant l'arbre de vie qui est la croix, intéressant aussi dans toute la tradition, l'arbre de vie, c'est la croix. C'est Jésus sur la croix. C'est Jésus qui nous mène, tiens, dans le paradis. Alors voilà que le texte nous dit ceci, le larron s'adresse à Jésus, après avoir rabroué son voisin, son homologue, son compagnon, et il dit, Jésus, c'est le seul dans l'évangile qui appelle Jésus par son petit nom, tout seul, sans dire Jésus fils de David ou Jésus est autre chose, c'est Jésus tout seul. Jésus, souviens-toi de moi, nous avons donc une réalité commune, nous vivons ensemble la même chose, donc tu peux te souvenir de moi, quand tu seras entré dans ton royaume. Il lit sur la croix de Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, donc il a un royaume. Il ne sait pas très bien ce que c'est. Mais quand Pierre ou la... Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée, ou la maman, Madame Zébédée elle-même, venaient demander à Jésus une place de premier et de second ministre pour Jésus, Jésus lui répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Hein? En effet, la place à droite et à gauche de Jésus dans son royaume, ben c'est la croix. Et donc, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume. Et Jésus répond, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il ne dit pas dans mon royaume, il traduit dans le paradis, dans ce lieu de bonheur et de délices qu'on appelle paradis. C'est-à-dire, il restaure, s'il prend paradis, au lieu de dire royaume, royaume, oui, mène plutôt vers la fin. Hein. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'on attend. Hein. Ce que le Messie va inaugurer. On attend un futur. Et Jésus remonte au passé. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras arrivé dans ton royaume, là où tu vas. Et Jésus dit, aujourd'hui, aujourd'hui, toi avec moi toi, dans le paradis. Il remonte au départ. Curieux, hein? Jésus dit, voilà, hein, le paradis, c'est-à-dire le dessein de Dieu, est en train de se réaliser et nous allons le réaliser, toi avec moi et moi avec toi. Dit dans les paroles de l'Apocalypse, hein, voici que je viens à la porte et que je frappe. Hein, j'entrerai hein, chez toi pour souper, toi avec moi, moi avec toi, hein, dans une réciprocité. Donc cette réciprocité, c'est la restauration de l'homme au début, le paradis. Donc intéressant de voir comment un mot suggère des réalités. Donc, et au milieu du jardin, l'arbre de vie, et Saint Jean nous montre bien, dans son récit de la Passion, que Jésus entre dans le jardin, de Gethsémani, il entre dans le jardin, et qu'au matin de Pâques, on vient le chercher dans le jardin, et il est considéré par Marie-Madeleine comme l'homme du jardin. On traduit généralement jardinier. Ouais, c'est pas bien traduit. C'est l'homme du jardin. Quel est l'homme du jardin? Le bien-aimé du Cantique des Cantiques qui vient retrouver hein, sa fiancée, sa bien-aimée. Hein, c'est le paradis. Et c'est l'arbre de vie au milieu du paradis. Mais cet arbre de vie est aussi arbre du connaître du bon, le bon et le mauvais. En effet, que dit Siméon à Marie lors de la présentation de Jésus au temple? Cet enfant hein, va être un, on peut traduire, hein, un chemin pour Israël. Voilà comment est le texte. Vois, cet enfant doit amener chute et relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Tiens. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Il y a une révélation de l'intimité du cœur. Nous nous trouvons, voyez, devant un arbre de vie. La vie, c'est Dieu qui la donne, donc l'origine et la source de la vie, c'est Dieu. Et cet arbre va symboliser l'homme dans le projet divin. Et l'homme dans le projet divin, il est immortel. Immortel pas à cause de sa faiblesse naturelle humaine, mais il est immortel dans le projet de Dieu, parce que Dieu ne fait pas une alliance pour quelques heures, quelques jours ou quelques années. Quand Dieu crée l'humain, c'est pas pour qu'il décline, c'est pour vivre quelque chose, une vie avec lui. Tout ça, c'est évidemment la réflexion des pères de l'Église qui va l'attirer. Mais en même temps, le fait que notre vie vient de Dieu et qu'elle trouve sa source en Dieu, c'est devenir libre face à cette réalité. Vais-je accepter la vie comme venant de Dieu, ou vais-je me la donner à moi-même? C'est tout le chemin qu'il y a entre l'image et la ressemblance. Donc, voyez, la manière dont le texte et libellé, nous montre qu'il ne faut pas trop voir les choses comme une dualité. L'arbre de vie, bah, c'est la réalité qui vient de Dieu, oui, l'arbre du connaître bon et mauvais, c'est la réalité humaine, c'est-à-dire la liberté humaine qui se trouve devant cette présence de Dieu. Vous allez retrouver cela dans toute la Bible sous l'image de ce qu'on appelle les deux voies. Je vais vous donner d'autres textes. Le premier texte, évidemment, c'est le psaume 1. D'accord. Pourquoi le psaume 1 ? Vous voyez comment il est bien. Heureux l'homme, celui-là, qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied. C'est très curieux qu'on définit cet homme juste, sans dire son nom d'abord, ou sa qualité, et on le signale parce qu'il ne fait pas. Il ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied. Mais il se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Le jour au jour annonce sa connaissance et la nuit à la nuit en dit le récit. Il est comme un arbre. Tiens. L'homme est arbre. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Tiens, il y en a d'autres ici. Hein? Celui-là porte du fruit en son temps, figurez-vous. Et jamais son feuillage ne sèche. Vous voyez que nouveau, il y a la Genèse qui tourne dans la tête de celui qui écrit cela. Tout ce qu'il fait réussit. Et on n'a pas encore dit qui c'était. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jour du jugement, ni les égarés à l'assemblée. Des justes. On attend presque la fin du psaume pour vous parler des justes. Qui c'est le juste ? C'est celui qui ne fait pas tout ça. C'est celui qui est comme l'arbre planté, qui puise son eau, qui puise sa fécondité dans le Seigneur. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Il y a vie ou perdition, vie ou mort.
Bon. Il y a une dissymétrie dans cette phrase.
Tout à fait.
Où est-elle ? Ça se perd tout seul.
Pardon ?
On dit que Dieu connaît le juste. On ne parle pas de Dieu comme l'impie.
Ah non, c'est pas lui. Lui, il se contente de juger. Juger, c'est pas condamner. C'est l'homme qui se condamne. L'homme se perd. Avat. C'est l'homme qui prend sa décision. Qui prend éventuellement une décision de mort. Bon, encore un texte de la même trempe, c'est-à-dire de la même époque. Chapitre 30 du Deutéronome. Versets 15 à 20. Vous connaissez bien. Hein? Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Ça ne peut pas dire que vie et mort, ou bonheur et malheur, sont sur le même pied. Mais tu es interpellé par. C'est toi qui es interpellé. Donc c'est toujours, oui, quand on vous propose ces deux voies, c'est toujours un appel à la liberté de l'homme. Et ce sont ces phrases qui reviennent constamment dans la Bible et que l'on comprend souvent très mal. Ces phrases de sagesse. Celui qui fait ceci est sauvé, celui qui fait pas ceci est condamné. Alors nous disons, il y a deux clans, et nous nous mettons dans l'un ou dans l'autre. Et Luther nous dit, double prédestination. Vous êtes dès le départ prédestiné au bien ou prédestiné au mal. Ça, c'est la mauvaise lecture. La lecture, ça veut dire, tu es l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. À toi de voir. C'est une interpellation de la liberté. Ce n'est pas une solution, c'est pas celui qui fait ceci est sauvé, celui qui fait ceci est condamné. Et maintenant, toi, tu es sauvé ou condamné ? Quelle partie choisis-tu ? Bon, voilà. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, tiens, il a lu la Genèse, celui-là. Les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et multiplieras. Autrement dit, les commandements de Dieu sont pour toi source de vie et de fécondité. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Tu seras un chemin de vie là où tu vas. Mais si ton cœur se détourne, il y a un détournement du cœur, au lieu de te tourner vers Dieu à travers ses commandements, tu te détournes vers toi. Si tu n'écoutes point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, les autres dieux étant les trucs que nous fabriquons, que notre cœur fabrique, c'est-à-dire une sorte de narcissisme intérieur, nous nous fabriquons nos valeurs, nos idoles. Je vous déclare, tiens, il a dit tu, maintenant il dit vous. Donc c'est un tu qui est dans un vous, c'est-à-dire un tu qui est dans un peuple. Je vous déclare aujourd'hui, vous remarquerez, c'est aujourd'hui, je te propose aujourd'hui, je te déclare aujourd'hui, c'est un des leitmotifs du Deutéronome, ça, que vous périrez certainement, littéralement que pour mourir, vous mourrez. Tiens, tiens, que vous périrez certainement, et que vous ne vivrez pas de longs jours, les longs jours étant le symbole d'une certaine pérennité, donc d'une immortalité, sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui, encore un aujourd'hui, un témoin contre vous, face à vous, le ciel et la terre. C'est-à-dire tout se trouve écrit dans la création. Écrit, c'est-à-dire pour que vous réagissiez. Je te propose, il reprend, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Il avait dit bonheur et malheur, maintenant il dit malédiction et bénédiction. Bénédiction fait toujours référence à vie et malédiction à mort. Choisis donc la vie. Autrement dit, sois libre. Choisir la vie, c'est être libre, puisque tu es fait pour la vie. Mais choisir la vie, c'est choisir celui qui la donne. C'est-à-dire, observer les commandements, c'est-à-dire, écouter Dieu. Pour que toi et ta postérité vous viviez, pour que vous deveniez fécond. Aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui. Car là est ta vie. Lui est l'arbre de ta vie. Ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre, que le Seigneur a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de leur donner. Vous voyez, ce sont des textes de la même époque. Pas nécessairement de la même époque d'écriture. Ceci est postérieur au premier texte de la Bible. Mais même époque au sens où ça a été rédigé définitivement, la rédaction définitive, la rédaction définitive du Pentateuque date de là. Et ici, nous arrivons vers la fin du Pentateuque, donc qui est aussi comme une unité. Il ne faudra pas s'étonner si dans la fin du Pentateuque, c'est-à-dire la fin du Deutéronome, et notamment le chapitre 30, 31 et 32, il y a eu des allusions assez nettes à la Genèse. Donc c'est la rédaction qui a mis tout ça ensemble. Et donc, l'arbre de vie et l'arbre du connaître bon et mauvais, nous disons, Dieu est ta vie et tu es libre devant cette vie. Donc l'arbre du connaître bon et mauvais, c'est un peu cette réalité humaine libre qui se trouve devant Dieu, celui qui donne la vie. Nous allons nous arrêter. Et effectivement, on vous montre une source qui sort de ce jardin, qui se divise et qui parcourt en fait toute la terre. Comme si vraiment, à partir de cet arbre, à partir de Dieu qui donne la vie pouvait innerver le monde entier. Et c'est là, au cœur, au centre, que Yahvé Dieu prend l'humain et le fait reposer. Pour servir ce jardin d'Éden, pour être au service du bonheur que Dieu donne à l'homme et pour le garder. Vous voyez que dans ce jardin d'Éden, il y a, comme la tradition juive l'a vu, il y a les commandements qui sont déjà présents. Et effectivement, ça commence par un commandement. Le mot commandement est présent ici. Et il commanda, Yahvé Dieu, à l'humain, disant, « De tout arbre du jardin mangé, tu mangeras. » On peut traduire aussi, avec certains rabbins, « De toute personne humaine, tu peux tirer quelque chose, car chacun, chacune a quelque chose à te donner. » De tout arbre du jardin, il n'y a personne qui t'est si étranger que tu ne puisses recevoir de lui du fruit. De tout arbre du jardin. Mais de l'arbre du connaître bon et mauvais, c'est-à-dire de ton arbre à toi, disent les rabbins, de ton arbre de liberté, tu ne mangeras pas de lui. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas fabriquer ta liberté. Ce n'est pas toi qui vas décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce n'est pas toi qui vas le décider. Tu vas le recevoir comme un don. Car au jour où tu mangeras, c'est-à-dire au jour où tu te fais ton commandement, ou ta liberté à toi, tu te la fabriques d'après toi-même, tu introduis un venin, tu introduis une mort dans l'humanité entière. La mort n'est pas un anti-Dieu, la mort est un rétrécissement du don à soi-même. La mort n'est pas très loin de ce qu'on va appeler plus tard la solitude, ou plutôt l'isolement, parce qu'il y a, il y a différentes manières d'être seul. Et juste le verset qui va venir après, il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Car être seul, c'est souvent le repliement sur soi-même. Et donc, la stérilité au lieu de la fécondité. Je ne trouve plus dans tous les arbres du jardin de quoi manger, de quoi me sustenter. Et je me ferme sur moi-même. Et cette vision des rabbins n'est pas fausse. Nous y reviendrons cet après-midi. Mais il fallait d'abord arriver au commandement de Dieu. Et allons nous demander un certain nombre, je vois que les questions commencent à foisonner, c'est bien, que le texte travaille. Alors, oui.
Il faudrait qu'à moins qu'on y revienne, bien entendu, mais j'ai besoin de savoir la bande dessinée que je comptais sur la Genèse. C'est un
acte
ou deux.
Bonne question. Alors, dans la Genèse, au milieu du jardin, c'est un arbre ou c'est deux?
Il y a deux manières de voir le même.
Mais oui, vous rendez bien compte que c'est dit de telle manière qu'on ne puisse pas dire c'est deux, et qu'on ne puisse pas dire absolument c'est un. On voit bien que c'est la même réalité puisque c'est au milieu. Il n'y a pas deux arbres, on ne dit pas qu'il y a deux arbres superposés au milieu. Donc, vous voyez, le texte ne dit pas les choses d'une manière aussi précise que nous l'aimerions, mais il le dit de toute telle manière que cela évoque une dualité. C'est une unité qui est en même temps duelle. L'arbre de vie renvoie évidemment à Dieu, qui est la vie. La connaissance, l'expérience du bon et du mauvais renvoie évidemment à nous, qui sommes doubles, hein, qui nous sommes liberté. Donc vous voyez, si on le regarde du point de vue de Dieu, c'est un arbre. Si on le regarde du point de vue de l'homme, c'est un autre arbre. Et pourtant, c'est la même réalité. Que sommes-nous face à la réalité vie qui est donné. Voilà la question. Oui.
La connaissance du bon et du mauvais.
L'expérience, je dirais, oui.
Moi, c'est ma recherche dans la vie, mon angoisse. Et dans la Bible, c'est le symbole du mal. Cette pauvre Ève, elle avait sous la main la façon de connaître, de discerner le bien et le mal. Elle va vers ça et c'est le symbole du mal.
Non, ce n'est pas le symbole du mal. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le symbole de mal, du mal. C'est vouloir le posséder. En fait, qu'est-ce que c'est que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon Dieu qui nous remet à notre liberté. Il nous donne d'être libres. C'est ça que ça symbolise. Il nous donne d'être libres. Sa vie nous donne d'être libres. Et donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. L'expérience du bien et du mal, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vouloir, en quelque sorte, être celui, non pas seulement qui discerne, mais celui qui décide de ce qui est le bon et le mauvais, celui qui décide de ce qui est le bon, c'est précisément ne pas recevoir la vie de Dieu, ne pas recevoir ce qui est le bon et le mauvais de lui. C'est vouloir en quelque sorte être le centre, dit en d'autres termes, vouloir se faire Dieu ou se mettre à sa place. Ce sont toutes sortes d'expériences qu'on a qu'on a utilisées dans la tradition chrétienne qui ne sont pas fausses. Mais ce n'est pas une mauvaise réalité. Ça veut dire notre liberté est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, mais nous pouvons mal l'utiliser, heureusement d'ailleurs, car si nous pouvons mal l'utiliser, c'est que nous pouvons aussi bien l'utiliser. Mais, voyez, et regardez bien, les questions sont amusantes, parce qu'elles vont chaque fois focaliser, comme d'ailleurs le texte le dit, elles vont nous focaliser, c'est-à-dire nous faire regarder d'abord et avant tout, la limite. La limite.
Moi, je repose ma question, pourquoi l'interdiction ?
Pardon ?
Je repose ma question tout à l'heure, pourquoi
l'interdiction ? Ce n'est pas une interdiction, c'est une limite. De tout arbre, c'est d'abord un don. De tout arbre, manger, tu mangeras. Donc il y a un don qui est pratiquement universel. Et pourtant, à ce don, il y a une limite. Mais du connaître bon et mauvais, tu ne mangeras pas de lui, c'est-à-dire de ta propre liberté, tu n'en décideras pas toi. Tu ne mangeras pas, tu ne boufferas pas, j'ai envie de dire, ta propre liberté. Tu la recevras comme un don. Tu peux manger de tout, mais le don de Dieu tombe dans une liberté limitée. C'est pas mauvais, ça. C'est limité. La limite n'est pas quelque chose de mauvais. La limite est le sens de notre lot destiné de créature. Mais nous emparer de cette limite, comme si nous étions illimités, ça devient... Je mange ma propre liberté, c'est-à-dire je me fais maître de ma propre liberté. Je ne reçois plus le bon et le mauvais de celui qui crée. Et donc, je remets tout dans la confusion. Vous voyez, c'est le problème que posent beaucoup de jeunes aujourd'hui. La liberté, pour beaucoup, c'est faire ce que je veux. Ce que je veux. Je, c'est qui ? Et vouloir, c'est quoi ? C'est la question que je leur pose. Je, c'est qui ? Je connais je. Est-ce que je connais je ? Ah non. Je connais certains éléments du je, mais j'ai une connaissance subjective du je. Qui est-ce qui connaît je ? Celui qui est un tu pour moi. D'abord et avant tout Dieu. C'est Dieu qui connaît je. C'est lui qui me fait je, c'est-à-dire personne autonome. Face à lui. Tant que je ne suis pas face à lui, toutes mes connaissances, tous mes jeux sont relatifs. Mais relatifs à quoi ?
À ma limite.
Pardon ?
À ma limite.
Non, la limite, c'est dit la relativité, mais relatif à celui qui est sans limite.
Il est le seul capable de déterminer ma limite. Mais en même temps, ma limite est le lieu de la rencontre. Et c'est ça le problème. Et recevoir ma limite aussi comme un cadeau, c'est-à-dire ne pas faire de la limite le centre de mon activité, de mon être, c'est ça, recevoir l'arbre de vie, c'est ça, vivre. Pardon ? Non. Recevoir ma limite de celui qui est sans limite, c'est cela, véritablement, vivre, c'est me ressourcer à ma véritable origine. Et donc, être libre, ce n'est pas faire ce que je veux.
C'est se recevoir comme fils.
C'est me recevoir, oui. Et le Nouveau Testament mettra la relation, mais déjà l'Ancien, d'Égypte, j'ai rappelé mon fils, se recevoir comme fils. Donc, c'est obéir. Obéir, c'est la grâce de la liberté. C'est découvrir ma véritable place et la recevoir dans la grâce. Oui.
Dans l'optique de la foi, c'est magnifique. Il faut quand même reconnaître que c'est à l'opposé de tout le langage, et plus que le langage, la conception de l'homme d'aujourd'hui. C'est un langage très difficile à accueillir, et je dirais aussi à transmettre. Hein?
Exactement. Exactement.
Pas être naïf non plus, croire que c'est la bonne nouvelle, automatiquement les gens vont sauter là-dessus.
Ah mais la bonne nouvelle, c'est pas quelque chose sur laquelle on saute.
Ben, si, forcément.
C'est le chemin étroit, c'est-à-dire celui qu'on ne prend pas. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce n'est pas facile, d'où la difficulté d'annoncer une bonne nouvelle, parce que c'est pas celle qu'on attend. Oui.
N'empêche qu'il y a aussi, même chez les jeunes et chez tous d'ailleurs, une expérience qui va dans ce sens-là, où on perçoit bien.
Laquelle ?
Que justement, de vivre dans l'accueil de ce que nous avons à vivre, une plénitude et un bonheur. Donc je veux dire, c'est peut-être plus difficile pour un jeune qui s'est moins heurté à ses limites, justement. Mais sinon, je pense que n'importe qui a déjà fait quelque part l'expérience qu'il y a un bonheur à faire le bien plutôt qu'à faire n'importe quoi.
Oui, mais pour cela, il faut découvrir que le bien n'est pas n'importe quoi. N'est pas ce que je décide. Parce que souvent, ce que je décide, c'est n'importe quoi. Pour beaucoup, c'est ça. Dire que la liberté est à l'inverse de ce que nous voyons généralement, parce qu'on présente la liberté comme pouvoir faire ce que l'on veut. Mais cette liberté est limitée parce que je suis. Je ne suis pas tout. Et cette liberté est limitée par les autres. Ils ne sont pas tout. Ma liberté, c'est de vivre ce que je suis. Pardon ?
C'est Nietzsche, Sartre.
Ah oui, c'est Nietzsche, Sartre et tout ça. Mais nous vivons après tous ces gens-là. Et donc, ce que dit François est exact. C'est difficile pour les gens qui sont éduqués par Nietzsche, par Sartre et par Hegel, etc. Et qu'on sort, c'est très difficile d'apprendre une autre manière de voir la liberté comme don de Dieu. Il faudrait d'abord que Dieu soit là. Et quand Dieu n'est plus là, pardon ?
Toujours en pleine lecture de ce chapitre que vous avez mis, en disant que Dieu, au fur et à mesure de sa création, s'était absenté de sa création.
Il s'est absenté.
Il s'est absenté. Donc on est dans le septième jour, le temps de la bénédiction. Oui. Et que, comme je ne veux pas être tout seul, j'ai le moins un, l'arbre, la connaissance, et que Dieu est dans ce moins un.
Oui.
Sinon, je reviens à la conclusion du départ.
Sinon, je viens ?
Sinon, je reviens à la conclusion du départ.
Oui.
Que finalement la place de Dieu qui se repose, elle est dans ce tout moins un. Elle est dans une.
Et elle dans le un. Dans le. J'ai pas entendu.
Dans le tout moins un.
Oui.
Maintenant.
Oui, oui. Le moins un, c'est la limite.
Oui, justement.
La limite. Je ne suis pas tout.
Alors.
Et au jour où
tu mangeras ta propre liberté, tu mourras. Tu introduis dans l'humanité, dans la communauté, un venin. J'utilise le mot venin parce qu'il vient du serpent. Tu introduis une mort. Mourir, tu mourras. Notez que ce mot mourir, tu mourras, mourir de mort, est utilisé dans beaucoup de commandements en Israël pour dire la gravité d'une faute. Nous pensons que c'est une, souvent nous pensons que c'est une peine. Parce que tu as fait cela, on doit te faire mourir. Je prends un exemple très simple. Celui qui frappe un homme de telle sorte qu'il provoque sa mort, mourir, il mourra. Ça veut dire, ça, c'est la gravité par excellence. Dès que tu introduis la violence dans la communauté, tu vas être victime de cette même violence. Donc, tu introduis une puissance meurtrière dans la communauté. C'est ça qui est mis en évidence. Dans le « mourir, tu mourras ». Donc, il ne s'agit pas d'abord et avant tout d'une punition, d'une punition par une mort, de l'infraction à un règlement ou un commandement. C'est comme ça souvent qu'on voit, on dit « c'est une punition ». Qu'est-ce que c'est qu'une punition ?
Peut-être parce que justement la Bible introduit la conséquence comme portée aussi par Dieu. Et donc, effectivement, nous faisons confusion à partir de là.
Tout à fait. Heureusement qu'il met la conséquence comme portée par Dieu.
Tout ça, il peut la traverser.
Ah oui, mais s'il ne mettait pas la conséquence comme portée et assumée par Dieu, il y aurait un autre que Dieu. Et ça, c'est très grave. Vous sentez bien que ces textes sont tout à fait opposés à toute espèce de manichéisme. Hein? Il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais. Donc, d'où vient le mal? Ah ben, du Dieu mauvais, tiens. Et d'où vient le Dieu mauvais? Ah ben, il est dépendant de Dieu.